Bonjour Pierre, j'ai une question, pas tellement, quelques petits commentaires. Quand vous parlez de ce qui va nous arriver et dont nous sommes responsables, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est la Baltique actuellement et les munitions qui ont été balancées dans la Baltique. Dans les années 30, si on ne réagit pas, la Baltique est morte pour 100 ans. Et comme me disait un Suédois, ici en Belgique, on oubliera nos crevettes, nos huîtres, nos moules et tout le bazar. En fait, ces munitions, dont les munitions gazeuses, sont dans un état tel, ça rouille. Actuellement, les pêcheurs danois ont tous des kits anti-poison à bord de leur bateau. Je ne sais pas comment réagir. Et alors, la stupidité humaine, on dit qu'il faut faire des économies d'électricité, mais on veut nous mettre la 5G. La 5G, c'est une centrale nucléaire en plus nécessaire en Belgique, 4 ou 5 en France. Et je ne suis pas le seul à avoir fait le calcul. Et les voitures électriques, on n'arrivera pas à les produire, on n'a pas de quoi faire les batteries en suffisance. Alors, vous parliez aussi de l'administration. Moi, j'ai une phrase qu'un prof m'avait dit, c'était « l'ombre sécurisante de la bureaucratie triomphante ». J'aime beaucoup. Et merci à vous.
Oui, mais effectivement, ce ne sont pas des questions, parce que je partage tout à fait votre analyse. Simplement, qu'est-ce qui nous a conduit, en quelque sorte, si vous voulez, à cette intoxication de la nature ? Si ce n'est justement les valeurs cardinales de production, de concurrence, de compétition et de vitesse. Je n'avais pas du tout parlé, mais si vous voulez, les notions d'efficacité et de vitesse sont justement les vecteurs de nos nouvelles servitudes. Et donc, il va de soi que ce que vous dites de l'intoxication de la nature, moi j'ai essayé de le montrer, mais maladroitement ce soir, je voudrais bien vouloir m'en excuser, mais c'est l'intoxication des relations humaines. C'est-à-dire que, par exemple, au niveau du soin, essayez. J'étais dans un débat il y a deux jours, qui s'appelle, enfin peu importe, Notre santé en danger, le vrai Ségur, n'est-ce pas, où les échanges, c'est en gros, est-ce qu'aujourd'hui, il y a, je n'ai pas en Belgique, mais en France en tout cas, la notion même de médecin de famille, ça n'existe plus. Aller trouver aujourd'hui même un médecin en France, ça n'existe quasiment plus. Et les urgences sont embolisées parce qu'elles sont venues à la place, en quelque sorte, du médecin de famille, des possibilités de consulter. Quant, par exemple, à la déshospitalisation, aujourd'hui, tout est fait en ambulatoire, mais pas pour le bonheur du malade. C'est parce que nous sommes dans un système tourniqué au niveau des hôpitaux. Et donc, si vous voulez, cette intoxication dans la Baltique, je suis d'accord avec vous, vous l'avez compris, mais ce que j'essaie de dire, c'est qu'on la trouve dans le grain le plus ténu de nos relations sociales. C'est-à-dire qu'on transforme en quelque sorte nos chers bambins en tueurs. C'est-à-dire, mais vous savez, je n'en ai pas parlé parce qu'encore une fois, j'ai été trop bavard et j'ai eu tort sans doute de m'apesantir sur certaines choses. Mais Spencer, quand il vous propose ça, c'est monstrueux. C'est monstrueux et c'est effectivement la théologie du nazisme. Des thèses spencériennes. C'est pour ça que Benjamin dit qu'elles sont sorties d'une cervelle monstrueusement rétrécie. Mais quand je vous dis que Spencer, c'est la théologie du néolibéralisme, je suis très sérieux. C'est-à-dire qu'en gros, et Foucault le dit à sa manière, ou Adorno par exemple, le fascisme, c'est la vérité des sociétés industrielles dérégulées. Et alors effectivement, elles vont empoisonner la Baltique, mais elles vont aussi empoisonner nos relations humaines, nos relations sociales. Et là, c'est pareil. C'est un gros problème parce que, par exemple, bien sûr que c'est génial, les connexions numériques, les algorithmes, etc. On en a profité pendant l'épidémie. On a fait plein de zooms. D'ailleurs, on n'a pas arrêté de faire des zooms depuis. Et d'ailleurs, ça, pour conséquence, que ça efface justement le moment privé du moment professionnel. C'est un autre point. Vous voyez ? Désormais, vous pouvez aller au travail en restant avec votre café au croissant dans le lit le matin. Alors, c'est génial. Sauf que, du coup, il y a un effacement des frontières. Et donc, en même temps, cet effacement des frontières que l'on pourrait tirer comme émancipation peut rapidement se transformer en nouvelle forme d'aliénation, en nouvelle servitude. Et donc, la possibilité pour l'employeur de s'introduire un peu plus dans votre lit, si j'ose dire. Oui. Mais c'est là où justement, je suis tout à fait d'accord avec vous l'avez compris, notamment sur cette bureaucratie galopante. Mais cette bureaucratie galopante, elle a désormais une arme de destruction massive qui est justement l'algorithmisation, si j'ose dire, de ses actions. Jamais comme aujourd'hui, nous n'avons été à la fois suivis, contrôlés, régulés, normalisés. Et donc nous courons le risque de nous transformer en société animale, où, et d'ailleurs au niveau du travail, où chacun est permutable avec un autre. Moi, j'ai connu une époque un peu stupide, sans doute, mais où un patient avait une relation avec un psychiatre, un psychologue, un infirmier, et on faisait attention à ce que ce soit le même qui le reçoive. Aujourd'hui, pour optimiser, pour accroître la rentabilité, un médecin remplace un autre, un psychologue remplace un autre, un infirmier remplace un autre, etc. La relation à la poubelle. Ah, sauf une chose, pas pour les plus riches. C'est-à-dire que vous allez avoir de plus en plus des systèmes de e-santé, des consultations numériques. Il y a des nouvelles start-up qui se mettent en place, qui marchent très fort là-dessus, qui vont gagner beaucoup de fric, n'est-ce pas ? Mais pas pour les plus riches. Donc la relation va devenir un privilège, n'est-ce pas ? Qu'il faudra pouvoir s'offrir. Mais j'ai répondu déjà, mais je suis d'accord, bien sûr, mais ce sont des commentaires.
Donc il n'y a personne qui parle, je peux ajouter pour la Belgique, il y a encore 35 000 tonnes de ces munitions juste au large de Knokke. 35 000 tonnes, dont 35 à 50% sont des munitions gaz toxiques, sarin, clark, moutarde et tout cela.
Et encore, Poutine n'a pas encore commencé à annexer la Belgique.
Il reste 5 minutes.
5 minutes. Non, mais je crois qu'il y a une question. Mais...
Merci beaucoup pour votre intervention. C'était vraiment Merci beaucoup. C'était vraiment très instructif. J'avais une question que je suis pas sûr de savoir formuler, mais quelque part, si notre société décide de bureaucratiser à outrance un maximum de domaines. Est-ce que c'est pas par manque de ressources vis-à-vis du nombre de personnes qu'on est et des exigences qu'on a, dans notre vie, et comment est-ce qu'on combat ça et dans quelle direction on devrait aller selon vous ?
Alors, je vous remercie de votre question, mais vous comprenez bien qu'elle est extrêmement difficile, parce que la question que vous posez, c'est comment est-ce qu'on peut changer ? Et il y a des résistances au changement qui sont multiples, qui sont surdéterminées. D'abord, bien évidemment, tous ceux qui tirent profit du système ne sont pas bien disposés à le modifier. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement important. Il faut bien voir que, si vous voulez, face à Spencer, face au principe de concurrence, vous avez, par exemple, un certain nombre de penseurs qu'on a appelés les solidaristes, dont je parle dans les deux bouquins, d'ailleurs, qui... Ce n'était pas des révolutionnaires, hein. C'était en France plutôt des républicains, radicaux-socialistes, francs-maçons, ce n'était pas des marxistes, ce n'était pas des trotskistes, etc. Mais ils avaient cette idée que Spencer nous amenait au pire et que l'humanité se constituait sur la notion de solidarité, sur la notion de dette sociale. C'est-à-dire qu'un humain qui naît, obligatoirement, il a besoin d'un autre secourable pour le prendre en charge, et à partir de quoi se constitue véritablement son humanisation. L'humanisation de l'homme se fait du fait d'une très longue enfance au cours de laquelle il est dépendant. Et donc en étant dépendant, il acquiert une dette qu'il devrait payer par une solidarité ensuite à offrir aux autres. Je ne sais pas si je suis clair. Donc, si vous voulez, les notions, on les connaît. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, on peut dire que lorsqu'en 1944... En mai 1944, le Bureau international de l'Organisation du Travail décide, émet une déclaration disant « Si on ne veut plus connaître ces guerres fratricides qui ont ensanglanté pendant tout le siècle, tout le XXe siècle, l'Europe, il faut investir dans la justice, la santé, la culture et l'éducation. Or, la santé, la culture, la justice et l'éducation, aujourd'hui, on vous dira, c'est ce qui creuse le déficit public. Donc, c'est plus du tout, n'est-ce pas, un investissement sur l'avenir. On est en train de vous faire passer ça comme un passif, hein, où vous créez des dettes pour les générations futures. Donc, ça veut dire concrètement qu'il faut revoir notre copie par rapport à ça. Donc, il y a une lutte politique à mener. Après, cette lutte politique à mener, elle ne saurait se cantonner, bien sûr, à la scène politique. Et là aussi, je n'ai pas le temps de le développer, mais j'en ai parlé dans le bouquin. La dimension du politique, elle est présente dans l'ensemble des métiers. C'est-à-dire toute relation humaine, quand Aristote dit « l'homme est un animal politique », ça veut dire ça. Ça ne veut pas dire qu'il fait de la politique. Ça veut dire simplement que l'humain cherche chez son semblable la garantie de son existence. Et d'ailleurs, Aristote dit les hommes ne se réunissent pas en cité uniquement pour s'organiser matériellement et pour voir à leurs besoins. Ils se réunissent en cité parce qu'ils ont besoin de la reconnaissance des uns par les autres. Ils fondent quelque part la démocratie par cette politique du semblable, pour aller vite. Je ne sais pas si je suis clair, vous voyez. Donc ça veut dire aussi que dans tous les métiers, nous avons à revoir la copie. Alors comment faire? On ne va pas déclarer, justement, le grand soir. On ne va pas, n'est-ce pas, considérer qu'on va modifier le gouvernement. Modifiant le gouvernement, on peut modifier le personnel politique, mais pas forcément la politique du gouvernement. Vous voyez. Donc, en quelque sorte, on a là un travail à faire, une lutte à mener, je pense, par exemple, sur les lieux professionnels. Je pense que les lieux professionnels constituent le ferment d'une réinvention de la démocratie. Je pense qu'il nous faut refuser ces évaluations quantitatives stupides, qui, en gros, sont des moyens de nous assujettir. Il faut que nous puissions être évalués, en tant que soignants, sur la qualité des soins que l'on fait, et non pas sur les indicateurs de tarification à l'activité. Il faut qu'en tant que chercheurs, nous puissions être évalués sur la qualité des travaux que nous menons pour la recherche, même s'ils ne donnent pas immédiatement des résultats quantifiables, même s'ils ne sont pas immédiatement convertis en langage de machine ou en langage économique. Je ne sais pas si je suis clair. Donc je crois que nous avons à penser local global en même temps. En quelque sorte, c'est pour ça que je vous en ai parlé, mais très vite, mais encore une fois, c'est très rapide. Hein, là. Mais ce qu'il faut, c'est pouvoir progressivement changer nos habitus, c'est-à-dire nos habitudes de penser et d'agir. Et ça veut dire porter une attention sur l'éducation, la culture. Et ça, c'est un point qui est extrêmement important, parce qu'on voit bien aujourd'hui comment l'éducation est formatée essentiellement pour participer à une production dont l'organisation sociale du travail est le taylorisme, c'est-à-dire, n'est-ce pas, le charlot des temps modernes qui visse les pièces, n'est-ce pas, qui visse les pièces sur une chaîne automatique de production, hein, et qui ensuite, ce geste de visser des pièces, vous le savez, c'est incroyable, n'est-ce pas, il y a du génie chez Chaplin, parce que ce geste, c'est pas simplement visser des pièces, puisque quand il sort dans la rue, il va visser les poitrines des femmes. Et finalement, il va passer lui-même comme un rouage dans la machine. Là, c'est ça l'habitus. C'est ça l'habitus. C'est pour ça que la manière dont nous travaillons, la manière dont nous accordons de la valeur à nos gestes professionnels, conditionne notre manière de nous conduire et de nous comporter ensuite vis-à-vis des autres et vis-à-vis de nous-mêmes.